Merci de cet exposé passionnant. Je vous invitais, c'est que je me sentais totalement en phase avec l'idée centrale de votre livre, c'est que les questions de la popularité et de la célébrité ont une longue histoire, premièrement, et deuxièmement, que cette longue histoire tient aux contradictions, aux ambiguïtés structurantes de la démocratie, et qu'effectivement, ces ambiguïtés structurantes concernant la représentation, ou à travers la représentation, il y a à la fois une demande de distinction et une demande de proximité. On veut à la fois que le représentant soit un double valorisant, en quelque sorte, des individus, et que le représentant soit en même temps une figure éminente. Et cette tension entre l'éminence et la proximité, elle est débattue en permanence, effectivement, pendant la Révolution, dans toutes les discussions sur la représentation politique elle-même. De la même façon, vous avez tout à fait raison, et là je partage à 100% votre point de vue, raison d'insister sur les tensions sur la figure du peuple. Le peuple qui est à la fois le sujet collectif raisonnable et en même temps le sujet de la diversité des passions. Et ça, c'est justement Mirabeau avait fameusement discuté cette question au moment où il s'est agi de donner une dénomination à l'Assemblée nationale à la fin des États généraux. Il est intervenu de façon très très vigoureuse dans ce débat et avec tous ceux qui pensaient que le mot peuple disait à la fois trop et trop peu, disons. Donc vous avez à la fois tout à fait raison d'insister sur cette deuxième dimension des contradictions. Contradiction aussi sur le sens même de ce que veut dire l'opinion et le public. Et vous n'avez pas cité le nom de l'auteur du Patriote français, parce que les articles du Patriote français sont anonymes, mais c'est Brissot. C'est Brissot qui est le grand théoricien, justement, enfin, je pense, le plus grand théoricien de l'opinion pendant la Révolution. Donc je suis tout à fait d'accord avec tous ces éléments-là, et je trouve que votre livre a tout à fait raison et amène à rompre, je dirais, avec les lectures un peu superficielles de la médiatisation qui pense qu'au fond tout ça est né très, très récemment. Et que je pense que pendant votre travail, vous êtes abonné à Gala, Voici, à Closer, et que vous avez en permanence fait l'aller-retour avec le XVIIIe siècle. Moi, quand j'étais en train d'écrire mon livre sur la légitimité démocratique, les chapitres sur la proximité, moi aussi, je lisais ces journaux toutes les semaines. Et ce qui était effectivement frappant, c'est de voir que dans cette notion de célébrité, il y avait à la fois la distance, mais des personnages qui étaient approchés par leurs plus petits aspects. Et le tableau et les gravures que vous avez représenté du lever de Voltaire, et bien c'est tout à fait effectivement ces journaux-là. Mais pour lancer, là, c'est pour dire donc que sur votre approche générale, je me sens tout à fait en phase avec vous. Mais il me semble tout de même qu'il y a des questions à se poser. Je commencerai à les poser à partir de la citation célébrissime de Madame de Staël que vous avez faite. Et vous auriez pu aussi citer dans ce même livre, qui est écrit effectivement au moment un peu difficile de l'Empire, c'est vers 1810-1812 qu'elle écrit ces pages, où elle parle de cet individu qui a mis son moi gigantesque à la place de l'humanité. Mais effectivement, ce qui apporte, ce qui fait un changement considérable à cette époque, et c'est une tension dont vous ne parlez pas beaucoup et qui, moi, m'intéresse, c'est cette tension entre la demande d'impersonnalité et le recours, au contraire, à la personnalisation dans la démocratie. Parce que tout le mouvement de la Révolution a été pour, à la place, justement, du pouvoir personnel du monarque, mettre en place un pouvoir relativement impersonnel. Et une des caractéristiques du pouvoir exécutif révolutionnaire, c'est que c'est un pouvoir exécutif collégial. Puisque au moment même où le roi, où on passe à la République à l'été 1792, il est question à un moment de parler d'un président de la France, et l'idée est tout de suite repoussée. De la même façon, quelques semaines avant que Bonaparte ne prenne le pouvoir, Barras disait « est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un président de la République ?» Et là aussi, c'est très fortement repoussé. Et donc, j'ajouterai à votre description, et j'aimerais que nous parlions un petit peu de cela, cette opposition entre une attente d'impersonnalité dans la démocratie et un passage à la personnalisation. Et à ce moment-là, je ferai la remarque suivante, c'est que le passage à la personnalisation dans les démocraties était considéré comme un problème tout au long du XIXe siècle et pendant la période révolutionnaire, et il n'est devenu acquis qu'au fond à partir du gaullisme, à partir des années 60, progressivement. Les personnages que vous avez cités, au fond, toutes les célébrités sur lesquelles vous avez réfléchi, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont des artistes, des écrivains, ou des personnages dont, l'importance morale ou symbolique, comme Wilkes ou bien Benjamin Franklin, est importante. Et pour les autres, ce sont des souverains. Vous avez commencé à nous parler de Victoria, terminé par Napoléon, en parlant du neveu également. Et est-ce qu'au fond, là, il n'y a pas une grande distinction à faire entre une tension autour de la célébrité, qui est une question générale de la modernité, et puis la personnalisation même des démocraties, qui ne vient qu'avec le fait d'avoir l'exécutif élu au suffrage universel, ce qui n'existe pas à ces moments-là. Si on prend une figure comme celle de Napoléon III, par laquelle vous avez terminé, Napoléon III, il incarne très bien, je crois, tous les dilemmes et les tensions de la célébrité que vous avez dit. Très, très, tout à fait. Et il est à la fois quelqu'un qui veut champion d'une politique de la proximité. Là aussi, les images d'Épinal reproduisent la vie familiale à un grand nombre d'exemplaires. Le parallèle avec Victoria est très, très intéressant à cet égard. Et chez lui, toutes ces tensions structurantes, on les sent tout à fait présentes. Mais après, lorsque l'Empire tombe, Gambetta, un des premiers mots qu'il prononce, c'est de dire que les républicains doivent se méfier des personnalités excessives. Et donc, c'est l'impersonnalité qui reprend en quelque sorte le pouvoir. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer dans votre travail ce qui est la réflexion générale sur la tension entre proximité et distinction dans la démocratie, et puis le phénomène spécifique de la personnalisation du pouvoir, qui pour moi est tout à fait différent. Vous avez tout à fait raison d'insister sur la continuité. Au fond, la seule chose qui change entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, qui change vraiment, on va en dire deux mots après, j'espère, c'est Internet. Parce que là, effectivement, c'est un type de média, ce n'est même pas un média, c'est une forme sociale inédite. Mais entre les journaux des années 60 et tout ce que vous avez étudié, bien sûr, il y a des différences de volume, de circulation, de choses comme ça. Bien sûr, la télévision a amené un supplément d'image. Mais on peut dire que sur le fond de la conceptualisation, vous êtes tout à fait fondé à dire qu'il y a une continuité, alors qu'on insiste sur la rupture. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre cette analyse, je dirais, presque culturelle et anthropologique de la modernité et le phénomène spécifique de la personnalisation en politique, qui n'est pas la célébrité seulement. Personnalisation en politique n'est pas célébrité.
Puis peut-être, voilà. Merci beaucoup. C'est évidemment des remarques extrêmement précieuses. Alors d'abord, je terminer, commencer par la fin. Enfin, je vais reprendre le questionnement en repartant de la fin. Et sur ce que vous disiez à l'instant, là, sur la continuité, c'est notre point d'accord sur la continuité des formes, finalement, des médias depuis le XVIIIe siècle. Je crois beaucoup, donc, à un des chapitres du livre que j'ai intitulé de manière un peu provocatrice, « Une première révolution médiatique sur le XVIIIe siècle », pour forcer un peu le trait, mais parce que j'y crois beaucoup et parce que je pense que La plupart des théories de la modernité, ou même simplement la manière dont les historiens pensent la modernité, les transformations en lien avec le XVIIIe siècle, insistent sur des choses qui sont très vraies, qui sont les transformations sociales, les transformations urbaines, transformations politiques, transformations économiques, etc. Mais que la transformation absolument fondamentale au cœur quand même d'une sociologie ou d'une anthropologie de la modernité, qui est celle de la multiplication des interactions médiatiques et de ses conséquences sur l'ensemble des champs d'activité, aussi bien sur l'activité culturelle, le monde culturel, que sur la gestion des relations, des notoriétés sociales et des réputations, que sur le champ politique, on y vient, a été, je dirais quand même, plutôt sous-étudiée. Et d'ailleurs, la sociologie traditionnelle, classique, dont la grande question était, enfin, je veux dire, le début du XXe siècle, dont la grande question était la question de la modernité, finalement, il me semble, a pas donné toute sa part à cette question des transformations, des formes d'interaction médiatique. Donc je suis content, et je pense qu'effectivement, on a là une grande continuité qui permet de penser. Alors, elle permet de penser quoi ? Elle permet justement, à mes yeux, de penser ce qu'il y a de commun dans toute une série de sphères de l'activité sociale et politique. Alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison de dire qu'il y a une grande partie des débats que j'évoque qui sont en partie, qu'on peut en partie ramener à cette question spécifique qui est celle, pour dire vite, des contradictions inhérentes à la théorie du régime représentatif, de la représentation. Vous-même, vous l'avez bien montré, Bernard Manin, sur lequel je m'appuie, a très bien montré aussi ce qui a à la fois ce principe, il y a toujours à la fois un principe démocratique et un principe, au fond, aristocratique dans la représentation. Bon. Donc, cette tension et donc le besoin de proximité que ça implique pour quand même faire fonctionner ce modèle représentatif est évidemment très présent dans ces éléments de discussion. Mais est-ce qu'il faut l'autonomiser ? Est-ce qu'il faut, une fois qu'on a reconnu qu'il est spécifique, et d'ailleurs qu'il prend des formes très différentes, parce que pour la période qui m'intéresse, évidemment, si on prend la Révolution française, il prend cette forme d'une méfiance très grande vis-à-vis, dans la tradition républicaine, jusqu'à la Ve République, pour la personnalisation du pouvoir, mais on a le modèle parallèle qui est celui de la Révolution américaine, et qui est celui de Washington, qui, là, produit une tradition républicaine aussi, démocratique, mais qui n'a pas du tout le même rapport à la question de la personnalisation du pouvoir, pour toute une série de raisons qu'on peut analyser. Donc, voilà, on peut l'étudier comme un phénomène politique relevant de l'histoire politique et de la théorie politique, comme ça, d'ailleurs, a été fait, bien fait. Mais ce que j'essaie, justement, il me semble que ça a un inconvénient, c'est de, qui est le reproche que moi je ferais des fois à l'histoire politique ou à la théorie politique, qui est de purifier à l'extrême le politique dans sa théorisation, sa conceptualisation, et du coup, ensuite, de s'étonner de voir des éléments qui ne relèvent pas de la théorie politique au cœur des fonctionnements de la démocratie, et donc de les condamner comme des formes d'impureté. Et il me semble que c'est la façon, par exemple, dont très souvent on pense l'intrusion des mécanismes de la célébrité, justement, dans le champ politique, comme quelque chose qui serait forcément de l'ordre de l'impureté, de l'illégitimité. Mais, donc, moi, au fond, mon travail, il consiste, évidemment, à reconnaître ce que vous venez de dire sur cette spécificité du problème politique de la représentation et de la personnalisation, de l'incarnation singulière du pouvoir par rapport à sa gestion collective, mais en même temps à montrer qu'elle s'inscrit dans un ensemble de d'enjeux et de débats qui traversent l'ensemble de la vie sociale. Et c'est, du coup, vous avez pointé le fait qu'il y a des figures très, très différentes dans mon exposé et puis dans le livre. C'est évidemment tout à fait volontaire. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de partir de Victoria, de revenir à Napoléon, mais de montrer que, au fond, des phénomènes très semblables se produisent dans des sphères, dans le milieu du théâtre, dans la sphère littéraire. Alors, évidemment, par rapport à ça, possibilité de dire, c'est oui, mais alors, confondez les choses qui, au fond, doivent être distinctes. Mais est-ce que le fait de les rapprocher, bien qu'on sache qu'évidemment, elles sont distinctes, le fait de les rapprocher permet de comprendre quelque chose de plus. Et moi, je pense que ça permet de comprendre quelque chose de plus. Ça permet de comprendre le fait que la démocratie, les démocraties modernes, à la fois héritent de toute une série de théories politiques, ont une part qui est neuve, qui est évidemment la théorie du, enfin en partie neuve, qui est la théorie de la représentation politique fondée aussi sur le droit naturel moderne, mais elles ont aussi une spécificité qui est de se développer à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans un contexte social et culturel nouveau qui est celui justement de sociétés à très fortes interactions médiatiques. Ce qui fait que il me semble que dans ces débats, par exemple sur la Révolution, on gagne à regarder, pas simplement à essayer de voir ce qui est spécifiquement politique, mais à regarder ce que j'appelais le recouvrement entre les questions suscitées par la question, les questions politiques de la représentation de la personnalisation du pouvoir et les questions qui sont liées au rôle des médias dans justement ce rapport de proximité-distance, qui fait que, par exemple, l'enjeu se pose très différemment dans la popularité moderne que dans les formes d'acclamation traditionnelles qui, là aussi, étaient le lien du souverain. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais...
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la contradiction que l'on voit à l'œuvre à l'intérieur de la représentation, elle a une racine plus profonde. Et cette racine plus profonde, c'est tout simplement la naissance de la société des individus. Et ça, vous avez tout à fait raison de dire qu'il est enrichissant de montrer que cette contradiction n'est pas simplement sur le terrain politique, mais qu'elle est sur un terrain pratiquement anthropologique. Et qu'à ce niveau-là, le mécanisme de la célébrité montre bien... comment faire société avec autrui, c'est à la fois reconnaître une singularité et en même temps une forme d'identité à autrui. Et que le mécanisme de la célébrité, il est très intéressant, effectivement, parce que, et Rousseau, évidemment, et par son œuvre, et pas simplement par la façon dont il a souffert de la célébrité, est la personne centrale, parce qu'il est vraiment celui qui a compris tout à fait en profondeur que la tension qu'il y avait entre l'authenticité et la citoyenneté était le grand problème moderne. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut aussi dire qu'il est intéressant de comprendre comment, à certaines périodes, sont à l'œuvre des mécanismes qui font que certains deviennent des célébrités et pas d'autres. Repartons, par exemple, de Mirabeau. Personne ne contestera qu'il ait été un des plus formidables orateurs des débuts de la Révolution et qu'effectivement il a une notoriété, une célébrité sans commune mesure avec d'autres. Mais dans les débats, si on regarde simplement les débats révolutionnaires, confrontés à des personnes dont les images ne circulent pas beaucoup, comme Sieyès, comme Barnave, comme Roederer, disons les grandes figures intellectuelles de la Constituante, ce sont quand même ces grandes figures intellectuelles qui finalement enthousiasment moins les foules, mais écrivent la Constitution, si je puis dire, lui beaucoup moins. Mais vous avez raison aussi de dire qu'il faut prendre en compte ces deux choses-là. La Révolution, ce n'est pas simplement la discussion entre Barnave, Sieyès et Roederer, ne serait-ce que parce que, vous le dites à juste titre, c'est que la question du rôle des tribunes a été centrale pendant la Révolution. Il y avait ceux qui disaient « Oulala, ne laissons pas entrer les étrangers ». Et d'autres, c'était les monarchiens qui disaient beaucoup ça, et d'autres qui disaient, mais au contraire, il faut que nous délibérions devant le peuple et que nous soyons aussi un théâtre d'une certaine façon, puisque même Robespierre allait jusqu'à dire qu'il aurait fallu un théâtre de 100 000 places, de 10 000 je crois, pour que tout le monde puisse assister. Donc il y a là aussi la distinction à faire et à comprendre pourquoi des personnes deviennent des célébrités et d'autres ne le deviennent pas, mais que celles qui ne deviennent pas des célébrités n'en jouent pas moins un rôle dans l'histoire qui peut être aussi important. Donc, pour simplifier, je dirais, il n'y a pas que les célébrités qui font l'histoire.
Il faut que je réponde à ça parce que, évidemment, c'est pas du tout ma thèse. Je ne prétends pas qu'il n'y a que les célébrités qui font l'histoire et qu'il n'y a que les célébrités qui sont intéressantes. D'abord, je voudrais vous préciser deux choses. La première, c'est que justement, vous avez vu, j'ai essayé d'éviter dans l'exposé l'utilisation, peut-être échappé de fois, de dire les célébrités ou un tel est une célébrité. Parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas d'étudier des célébrités en tant qu'elles sont des célébrités. La célébrité, pour moi, n'est pas ni un ensemble de gens, et n'est pas non plus le statut de certains individus qui seraient des célébrités alors que les autres ne le seraient pas. C'est un type de relation. La célébrité, c'est un type de relation entre un individu et un public. C'est pour ça que pour moi, il y a célébrité à partir du moment où il y a public. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, aussi bien l'histoire que la sociologie a très largement distingué une étude des publics culturels, des publics de théâtre, des publics littéraires, etc., et la question de l'opinion publique comme facteur politique. Ce qui m'intéresse, c'est de les remettre ensemble. Mais, donc, la célébrité comme phénomène, comme phénomène relationnel entre un public et un individu, et qui est présente, qui est toujours une question d'intensité. Il n'y a pas des célébrités et des gens pas du tout célèbres. Il y a des anonymes, en tout cas, donc, il y a souvent des gens qui sont plus ou moins, dont la relation de célébrité est plus ou moins intense, plus ou moins activée. Hein, Brissot, sans être... Enfin, cette célébrité était peut-être moins évidente, se manifester sous des formes moins spectaculaires que celle de Mirabeau, mais enfin, néanmoins, était évidemment une figure célèbre. Hein. Donc, premier élément. Et du coup, si on dit ça, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne s'agit pas de dire on va étudier les gens célèbres et les autres ne comptent pas, mais au contraire, mais de dire qu'est-ce que cette relation fait, comment est-ce qu'elle travaille la question spécifiquement politique. Et de dire que cette relation, et ce qu'elle implique, n'est pas quelque chose qui serait extérieur à la politique et qui la parasiterait, elle est la réverbération dans l'espace proprement du politique, d'une série de transformations qu'effectivement on peut appeler anthropologiques ou sociologiques de la modernité. Et donc, moi, ma réaction, c'est de dire pourquoi. C'est pas de dire ce qui est intéressant dans la Révolution, c'est que Mirabeau était célèbre, évidemment pas. Mais c'est de dire pourquoi est-ce que les dispositifs de la célébrité de Mirabeau, les effets de la célébrité de Mirabeau, ont globalement été évacués ou traités un peu par le mépris dans l'histoire politique de la Révolution. Pourquoi l'histoire politique de la Révolution considère qu'effectivement les débats de la constituante entre Barnas, Sieyès et d'autres, sont politiquement beaucoup plus importants que la célébrité de Mirabeau, y compris en termes politiques. Et il y en a un qui savait qu'il n'était pas le plus mauvais historien de la Révolution et qui savait très bien à quel point elle était importante, c'est Michelet. Et Michelet, l'importance de Mirabeau pour Michelet, notamment les chapitres magnifiques qu'il écrit sur l'enterrement de Mirabeau et sur l'événement fondamental que ça a été, qui est à la fois un événement politique, mais qui est un événement qui ressemble beaucoup justement à des phénomènes d'enterrement de célébrités artistiques. On s'en rappellera au moment de l'enterrement de Talma. Il me semble que c'est un enseignement pour dire que voilà, c'est aussi, il y a aussi des choses politiques, notamment en termes de justement de la façon dont un collectif se pense comme collectif à travers la relation qu'elle établit avec une figure publique qui est au moins aussi politique que les débats théoriques.
Nous n'allons pas faire simplement une politique de consensus, mais je pense que vous avez tout à fait raison qu'il faudrait distinguer l'importance intellectuelle de certaines choses et l'importance politique. Je pense qu'intellectuellement, les débats entre Sieyès et Roederer ou Barnave sont plus importants, mais que politiquement, il est aussi important de tenir compte, effectivement, de l'apport, ou de la contribution, ou de la place, ou du rôle de quelqu'un comme Mirabeau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a une question sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est que je suis tout à fait d'accord aussi avec l'idée que la célébrité est une relation. Mais une relation, ça veut dire qu'il y a la dimension démocratique qu'il y a, c'est qu'une possibilité d'appropriation. Alors qu'effectivement, ce qui était de l'ordre de la gloire, il n'y a pas d'appropriation, il y a une contemplation. si je puis dire. Alors que là, la célébrité, on peut s'approprier la célébrité. Je crois que c'est du XVIIIe siècle, des journaux, enfin des pamphlets ou des images que vous avez citées sur Marie-Antoinette aux journaux People d'aujourd'hui, c'est bien la même chose. Il y a un mécanisme d'appropriation. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et c'est au-delà, je dirais, d'une vision dépréciative. Si on ne comprend pas qu'il y a cette dimension positive de l'appropriation, effectivement, je crois qu'on ne comprend pas les choses, quelle que soit, je dirais, la nature de l'objet approprié. Évidemment, entre Justin Bieber et puis Marie-Antoinette et puis une personnalité politique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, le mécanisme fondamental est bien de même nature, et ça, c'est très, très juste. Comme il nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais tout de même... il n'est pas utile de montrer à quel point ces analyses sont valables pour aujourd'hui. Je crois que ça n'est pas la peine de faire des traductions, tout le monde l'a compris mentalement, instantanément. Mais il y a tout de même effectivement une différence, je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, c'est que Internet introduit une distinction parce que ce n'est pas un nouveau média. Le changement des médias, de la radio, de la télévision, introduisent des changements quantitatifs, mais pas intellectuellement qualitatif, ne change pas la nature du problème, je suis fondamentalement d'accord avec vous. Mais Internet change complètement. Internet change complètement parce que Internet, pour la première fois, donne en quelque sorte une forme matérielle à l'opinion. C'est-à-dire qu'avant Internet, l'opinion, elle est toujours représentée. Elle est représentée par des voix connues, elle est représentée par des sondages, elle est toujours en quelque sorte approchée par des mécanismes de représentation. Et là, Internet, effectivement, on peut dire que l'opinion publique, elle existe matériellement, elle existe physiquement. Et donc, ça change complètement parce que je suis très frappé du fait qu'on emploie souvent pour Internet des termes qu'on employait pour le terme de peuple au XVIIIe siècle, où le mot peuple, il charriait à la fois le plus inquiétant et le plus rassurant, le plus vulgaire et le plus terrible, et en même temps le plus rationnel, et Internet, c'est ça aussi. C'est à la fois le rationnel et l'irrationnel, l'inquiétant, le terrible, et puis la délibération publique. Donc comment vous voyez que cette rupture, je pense qu'on peut dire vraiment cette rupture, qu'introduit Internet en changeant le sens même du terme opinion publique, modifie cette question de la célébrité, parce que il y a une diffusion un peu de cette question, non ?
Oui, c'est une question qui est très difficile. Hein, à vrai dire, je pas d'expertise précise dans le livre, justement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une intensification avec la cinéma, la télévision, etc., mais qui ne modifie pas radicalement les coordonnées du problème. Internet, c'est d'abord, c'est compliqué parce qu'on manque encore de recul, d'études. On a des avis, on observe, voilà, on est en tant qu'observateur, mais on manque, il y a des travaux comme ceux de Dominique Cardon, etc., qui permettent d'essayer de comprendre un peu la manière dont les choses fonctionnent. Ce qui est frappant, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est à la fois, effectivement, il y a des éléments de rupture en termes de forme de dispositif de communication, ça c'est très clair, et en même temps, comme vous le disiez vous-même, la façon dont les enjeux portés par, dont les conséquences de ces nouveaux dispositifs sont pensés, reproduit des tensions, des contradictions qui sont finalement dans les termes, en tout cas pour l'instant, dans le commentaire qui est porté dessus, dans des termes très classiques depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette ambiguïté, ambivalence. Et à mon avis, c'est une ambivalence par rapport justement à l'intensité des appropriations. Vous parliez tout à l'heure de ce qui, à mon avis, est renforcé par Internet, c'est deux choses. C'est d'une part les possibilités d'appropriation de la célébrité et de la notoriété, mais au point que cette appropriation, ce qu'elle est toujours, on dit, enfin, les sociologues de la culture ont bien montré que toutes les formes d'appropriation sont des formes productives, formes de création, évidemment. Michel de Certeau est un des premiers à citer là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est cette, justement cette capacité cette dimension créative des appropriations des messages culturels ou sociaux qui est vraiment matérialisée dans Internet. À mon avis, c'est ça qui le modifie. Et du coup, le fait que chacun devient potentiellement à la fois le récepteur, le médiatiseur, le média, en retweetant, par exemple, le modèle du retweet. Chacun est lui-même le média qui renforce, en fait, ou simplement l'intensité, le fait du calcul Google de popularité des pages. Alors aujourd'hui, popularité, c'est une chose intéressante, qu'on cherche popularité, ce que je recherchais, voir des références théoriques. Les rares articles qu'il y a sur la popularité, c'est des articles sur le calcul de la popularité des pages Google. Donc le sondage, le calcul mécanique par la machine du sondage des formes d'appropriation qui sont le fait de cliquer sur une page pour aller voir. Et chacun devient aussi l'accès, pour le coup, à la célébrité et à des célébrités fugitives devient aussi plus ouvert. C'est-à-dire que la phrase tellement citée, tellement galvaudée sur le quart d'heure de célébrité, qui était quand même une plaisanterie, commence à avoir potentiellement un moment de réalité. Donc je crois que c'est ces choses-là qu'il faut que essayer de penser.
Ben c'est très bien, nous terminons sur des questions et donc nous continuerons la semaine prochaine. Merci.